vénérable escalier à la rampe décorée de chrysanthèmes en fer forgé mène à l'illustre laboratoire de paléontologie que dirige au muséum le professeur Camille Arambourg. De degré en degré, comme de monstrueux trophées de chasse, se succèdent des vestiges d'une faune puissante, Macrotherium, Paléotherium, Magnum, Elephas insignis. Et au moment de frapper à la porte du laboratoire, le visiteur, qui sent de plus en plus peser sur soi le poids des millénaires silencieux, peut entrevoir dans la galerie du premier étage les fascinantes structures du Diplodocus et du Triceratops. Le professeur Arambourg se tient, clinicien attentif et calme, au chevet des âges. Sous son regard se range toute la ménagerie du révolu. Il n'est pas question de poumons respirants, de rien d'autre à interroger que des ossements, voire de précaires empreintes. Pourtant, il ausculte, il percute, et à travers ces immensités mortes, il écoute bruire la vie antédiluvienne, il surprend le long murmure de l'évolution.
Le muséum est toujours là, son vénérable escalier aussi, ainsi que les ossements de Diplodocus ou de Triceratops. En revanche, on ne parlerait certainement pas aujourd'hui de la paléontologie comme on le faisait dans cette archive de 1953. C'est que cette science est probablement l'une de celles qui a le plus évolué, si vous me passez l'expression, ces dernières années. L'amélioration des techniques, les apports de la paléogénétique ou encore la possibilité de traiter informatiquement des masses énormes de données y sont pour beaucoup. Mais on peut se demander si la révolution la plus importante n'est pas celle des mentalités. On pourrait dire à ce titre qu'il n'y a de préhistoire que contemporaine et que l'étude de nos lointains ancêtres est tributaire de notre vision du monde aujourd'hui. Il en est ainsi de la question des origines, un temps supposé unique de l'homme, de la question des mobilités, de genre, d'hybridité entre Néandertal, Sapiens ou Denisova. Bref, la préhistoire n'a jamais été aussi actuelle et pour en parler aujourd'hui, nous recevons deux de ses plus éminentes spécialistes. Raymonde Bonnefille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, géologue de formation et palynologue. Alors la palynologie, c'est l'étude, la spécialité qui étudie les pollens. Et vous êtes une pionnière en la matière, dans leur utilisation afin de reconstituer l'histoire des forêts et des paléoclimats en Afrique. Bref, c'est l'environnement de ces premiers hommes. Je ne sais pas s'il faut vraiment le dire comme ça. Vous nous le premiers hommes, première femme, vous nous direz tout à l'heure. Vous avez à ce titre participé à la découverte de l'une des plus célèbres d'entre elles, Lucie. Et vous revenez dans un récit chez Odile Jacob sur les pas de Lucie, expédition en Éthiopie. Vous revenez sur cette expérience auprès d'Yves Coppens notamment et dans ces expéditions en Éthiopie qui ont mené à la découverte de Lucie. Avec vous en studio, Claudine Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et historienne des sciences, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la préhistoire. Oui. Vous avez participé à un ouvrage récent, Variations sur l'histoire de l'humanité, tiens, d'ailleurs préfacé par Yves Coppens, et vous avez signé dedans un article sur les origines du genre. On y reviendra évidemment pour parler de Lucie. Vous avez également co-dirigé avec Romain Bondonneau, une anthologie de la préhistoire littéraire dans les grands cahiers du Périgord patrimoine. Voilà, c'est un très beau livre illustré avec des dessins originaux de Gérard Titus Carmel et qui propose un peu une vision de la préhistoire littéraire. Vous nous en direz évidemment quelques mots, mais peut-être on pourrait commencer sur cette archive de 1953, Raymonde Bonnefille, 7 ans avant que vous ne vous rendiez vous-même au musée d'histoire naturelle pour une conférence, enfin c'est un peu par hasard, de Louis Leakey. Vous racontez cette anecdote dans votre ouvrage et c'est un peu pour vous le déclic qui vous amène à la paléontologie.
Oui, c'est vrai. C'était à la suite de la rédaction de ce livre sur les pas de Lucie que j'ai réalisé sans avoir de notes et sans faisant un travail de mémoire. M'est revenu le souvenir de cette conférence que Louis Leakey a faite en 1959 ou 60. Ça devait être ma deuxième année d'études à la Sorbonne et à l'École normale. Donc, par hasard, alors que les réunions du muséum rassemblaient plutôt une assemblée où il y avait relativement peu d'étudiants, mais des personnalités éminentes de la préhistoire de l'époque. Et je crois que ça a été un choc, je pense. Un choc à la fois par la personnalité de Louis Leakey, par son charisme, Disons de c'est qui ressemblait pas du tout au professeur mandarin de l'époque, qui était beaucoup plus bronzé, souriant. Et puis les vocations de ce paysage de la Tanzanie avec les animaux sauvages et la présentation de cet australopithèque qui avait été trouvé, dont le crâne avait été trouvé sur un sol archéologique où il y avait des outils taillés à Olduvai.
Et vous êtes rendu compte à cette occasion-là que finalement la paléontologie pouvait être faire l'objet de récits véritablement cette science un peu plus sérieuse peut-être
et plus attractive que les leçons de paléontologie qui consistaient à apprendre par cœur des séries d'ammonites comme c'était le cas à l'époque.
Claudine Cohen.
Oui, ce qu'elle a découvert, je crois, c'est l'éblouissement du terrain. C'est-à-dire à la fois un baroudeur, hein, Louis Leakey, et sa femme, hein, qui travaillaient ensemble là-bas, en Tanzanie, au Kenya, et puis ces faunes extraordinaires, et puis ces découvertes. On raconte que Louis Leakey a attendu 30 ans avant de trouver le Zinjanthrope. Hein. Il a fouillé pendant 30 ans, et puis il a fait cette découverte qui était vraiment, je crois, le point de départ de ce que Coppens a appelé la ruée vers l'os en Afrique de l'Est.
En quoi, oui, donc cette ruée vers l'os, c'est ce moment de bascule à la fin des années 50.
Au début des années 60, c'est-à-dire que c'est là qu'on a commencé à prendre au sérieux l'idée que le berceau de l'humanité était bien en Afrique de l'Est. Et puis des équipes américaines, des équipes françaises sont allées sur le terrain. Et ce que raconte Raymond Bonnefils, c'est précisément cette collaboration, ces relations entre les équipes, et puis les découvertes extraordinaires qu'elles ont pu faire.
Je raconte l'historique, la mise en place de ces expéditions, justement, à la suite du professeur Arambourg, que j'ai eu la chance de côtoyer sur le terrain. Il avait à l'époque l'âge que j'ai aujourd'hui. Et donc, je raconte comment la série d'événements, d'expéditions précédentes qui ont abouti à la création de plusieurs expéditions dans la Basse-Vallée de l'Omo en 1966.
Expédition française et expédition américaine.
Et aussi une expédition anglo-kenyenne avec Richard Leakey.
Alors, vous êtes, je l'ai dit, Raymond Bonnefils, spécialiste de palynologie. Comme je le disais, c'est l'étude des pollens. En quoi consiste exactement cette science? En quoi, finalement, être intégré à l'équipe d'Yves Coppens dans cette expédition de la vallée de l'Omo, en quoi est-ce d'abord une originalité et quel a été votre apport?
Alors, c'est un mot barbare, la palynologie. Donc, les pollens, ce sont des grains de pollen, la poussière des fleurs. Et ces grains microscopiques ont une enveloppe extrêmement résistante qui se conserve depuis des milliers d'années, des millions même de millions d'années, et qui ont la caractéristique d'avoir une série d'ornementations, de structures et de détails qui font qu'on peut attribuer chaque pollen à un type de plante ou un type de famille de plantes. Et donc, ainsi, on peut reconstituer le milieu végétal. Alors, cette méthode avait d'abord été développée dans les années 50 dans les pays nordiques, sur des forêts tempérées, et donc je l'ai appliqué à l'Afrique, et surtout je l'ai appliqué aussi à des terrains très anciens.
Mais alors sur le terrain, ça ressemble à quoi le travail d'une palynologue ?
Alors sur le terrain, c'est un travail de géologue, parce que c'est un travail qui consiste à choisir les échantillons susceptibles d'abord d'avoir cette matière organique conservée, et puis en relation avec la problématique, soit de l'environnement de nos hominidés, si on a découvert des hominidés, soit de la succession dans le temps, et de déterminer s'il y a des variations dans le contexte végétal au cours de ces temps géologiques.
Claudine Cohen, ça peut paraître évident d'étudier l'environnement dans lequel notamment les australopithèques évoluaient, et pourtant à l'époque...
C'était un travail tout à fait pionnier, je pense, parce que pendant longtemps on s'est intéressé évidemment plus à l'anatomie, plus aux outils, qu'au cadre dans lequel ces hominidés évoluaient, et je crois que c'est vraiment un travail qui aujourd'hui a des retombées et a un écho très important que celui d'étudier la faune, la flore, de façon aussi détaillée, hein, à travers les poèmes. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une autre femme qui a été aussi palinologue, je crois, à peu près à la même époque, c'est la femme d'André Leroy-Gourhan,
qui est Arlette Leroy-Gourhan. Oui,
et c'est intéressant que ce soit des femmes qui aient ouvert ces choses en France.
La personne qui a développé les grands labos le premier grand laboratoire de palinologie morphologique était une botaniste, c'était Madame Van Campo.
Alors, c'est intéressant, quand on voit les choses de loin, depuis le 19e siècle, qu'au fond, les femmes se soient introduites comme ça sur le terrain, parce que c'est très dur, le terrain, surtout ce terrain dont vous parlez, qui est vraiment avec des...
Moi, je ne l'ai pas trouvé dur, mais bon.
Ce que vous racontez, quand même, avec des animaux féroces.
J'abonde dans le sens de Claudine Cohen, c'est vrai que quand on lit sur les pas de Lucie, donc cet ouvrage que se publie aux éditions Odile Jacob, on se dit que, c'est pas des terrains évidents
mais alors,
à vivre.
Justement, que des femmes se soient introduites sur les terrains, à travers l'étude des plantes. Et au fond, ce rapport des femmes aux plantes est toujours un rapport privilégié depuis la préhistoire.
C'est ce que j'allais vous dire, ça renvoie à un imaginaire, je ne sais pas si c'est véritablement la réalité. Souvent, on oppose, on dit que les femmes étaient plutôt cueilleuses quand les hommes étaient plutôt chasseurs. Ce sont des représentations qui évoluent beaucoup ces dernières années, mais malgré tout, c'est vrai que, en tout cas, votre exemple est là pour le montrer, Raymonde Bonnefille. Il y a un intérêt particulier des femmes scientifiques pour cette palinologie?
Il y a relativement beaucoup de femmes, oui, dans palinologie, mais en palinologie botanique. Il y avait beaucoup de femmes dans la description. C'était la botanique. Et en ce qui concernait la géologie, non, c'était le développement était dans la géologie pétrolière. Avant qu'on ait d'autres moyens pour dater les sédiments, on s'est servi des pollens pour dater. Aujourd'hui, non, on ne se sert plus de pollen pour dater. Ça, c'est une réponse que je dois faire parce que souvent on me la demande. On a des méthodes physiques beaucoup plus sophistiquées. Et oui, j'étais une cueilleuse.
L'année dernière, on découvrait dans l'Est africain une petite femme de plus de 3 millions d'années, Lucie. Pas exactement un homme, mais plutôt un cousin, comme l'appellent les paléontologues, un australopithèque.
Eh bien, Lucie, en voici la mâchoire. Je choisis la mâchoire parce que c'est celle qui peut être comparée aux autres pièces des autres hommes. Lucie est donc une jeune femme du groupe des australopithèques. Elle ne fait pas partie, sur le plan zoologique, des hommes. Et ce qui est arrivé depuis, c'est qu'on a trouvé de véritables hommes, les premiers hommes, contemporains et même plus anciens que Lucie. C'est-à-dire que Lucie n'est pas véritablement l'ancêtre de l'homme, mais c'est la cousine, en quelque sorte.
Ça fait presque 4 millions d'années, ça.
Celui-ci a 3 750 000 ans, oui, presque 4 millions d'années, et il vient de Tanzanie. Il y a eu toute une série de découvertes, ce n'est pas moi qui les ai faites d'ailleurs, ce sont d'autres collègues, à la fois en Asie et à la fois en Europe, d'êtres plus anciens que l'on appelle d'une manière générale les Ramapithèques. Autrement dit, au-delà dans le temps des Australopithèques, se trouvent leurs ancêtres, parce qu'il faut bien qu'ils descendent de quelque part, qui sont probablement les Ramapithèques.
La voix d'Yves Coppens qui présente cette découverte de Lucie à laquelle vous avez participé, Raymonde Bonnefille, et qui dit « c'est une femme ». Alors est-ce que Lucie est une femme? C'est une question qui se pose encore aujourd'hui.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, l'attribution à une femme avait été faite immédiatement sur le terrain par l'anthropologue américain qui connaissait bien l'anatomie et qui avait décidé que le bassin était le bassin d'une femme.
Parce qu'il nous manque le crâne de Lucie qui aurait permis peut-être d'être un peu plus précis sur
ça. Oui, je disais, il y a Lucie, le squelette en tant qu'individu, et puis il y a l'Australopithèque afarensis en tant qu'espèce. Alors, l'Australopithèque afarensis, il y a des crânes maintenant qui ont été trouvés, mais beaucoup plus tard, après, dans les années 90. Donc, je crois qu'il y a eu des études, d'ailleurs sous la direction d'Yves Coppens, d'anatomie ultérieure, qui ont, après la contestation qui était intervenue, où on avait dit que le squelette était plutôt un squelette masculin, on l'avait appelé Lucien. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les études comparatives montrent effectivement que Lucie était une femme.
Lucie était bien une femme, voilà qui règle la question, Claudine Cohen.
Moi je crois que c'était assez profond, cette idée d'identifier une femme. Alors, l'histoire du bassin, bon... j'avoue que j'en doute un petit peu parce que le bassin s'élargit chez Homo sapiens ou chez les Néandertaliens parce que le crâne est très gros. Or, chez les Australopithèques, on a un crâne petit, un cerveau petit.
Alors peut-être qu'il faut rappeler, parce que vous anticipez un petit peu sur la polémique, c'est qu'on disait que ça ne pouvait pas être une femme car le bassin était trop petit pour l'accouchement, voilà. Tout simplement. Et c'est pour ça que vous faites référence à cette question de la taille du crâne.
Cette hominidé n'a pas une grosse tête. Hein. On n'avait pas la tête, mais on sait qu'il n'avait pas un cerveau très important. Mais il me semble qu'il y avait d'autres raisons pour identifier une femme. Il me semble qu'on était dans ces années 60, en particulier aux États-Unis, dans un moment de pénétration des femmes dans le milieu paléontologique. Il y avait des grandes anthropologues qui ont commencé à même avoir un point de vue féministe sur la paléanthropologie. Adrienne Zillmann, etc. Toutes sortes de femmes qui ont été des anthropologues et des primatologues aussi très importantes de terrain. Et au fond, c'était vraiment un coup d'identifier un nouvel hominidé très important comme une femme. Avant, c'était l'homme de Cro-Magnon. On ne parle que de l'homme de Cro-Magnon, on ne parle pas de la femme de Cro-Magnon, hein, qui existe pourtant. Oui. Et là, tout d'un coup, la femme surgit sur le terrain de la paléontologie et comme quelque chose de très très important, parce que c'était à l'époque le plus ancien hominidé connu.
Oui, il y a depuis d'autres hominidés qui ont été découverts, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais Raymond Bonnefy, vous, quand vous participez à cette découverte, cette attribution de ce squelette voilà, au sexe féminin, est-ce que vous avez conscience de ce que vient de dire Claudine Cohen? Vous êtes une jeune paléontologue, est-ce que vous avez conscience de cette dimension presque féministe de la découverte?
J'étais au courant des mouvements féministes, oui, j'ai eu des écrits et tout ça, mais je crois pas que ça ait influencé au moment de la découverte. Ce qui a été assez extraordinaire, c'était de trouver un squelette à demi complet, mais enfin beaucoup de pièces ensemble appartenant au même individu, pour une période de temps aussi ancienne, 3,2 millions, c'était quelque chose qui était... Le zingentrope, il a 1,8 million. Dans la vallée de la basse vallée de l'Omo, les expéditions précédentes, il y avait beaucoup de restes d'hominidés, de crânes, etc., qui étaient autour de 2,6 millions. Et là, on franchissait encore un 500 000 d'années. Et puis... C'était extraordinaire. D'habitude, on trouve un fémur, on trouve des mâchoires séparées. Là, tout était ensemble. Et ça, c'était extraordinaire. Donc, on a pris conscience que c'était une découverte importante. Voilà. Et l'appellation de Lucie, c'était le trait de génie qui a popularisé cette découverte.
Parce qu'on lui a donné un nom dont la légende dit qu'il est tiré du titre des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Vous confirmez?
Oui, c'est sûr.
C'est sûr, très bien. Et c'est parce qu'on lui a donné un nom qu'on a pu l'identifier finalement, Claudine Cohen, et que ça a été un succès.
Je crois que c'est la première fois qu'on donne vraiment un prénom à un fossile. Et puis depuis, ça s'est beaucoup répandu, hein, Abel, Toumaï, etc. Et c'est une façon aussi de médiatiser une découverte. Et ce qui est le propre de cette découverte aussi, c'est peut-être celle qui a été, après la conférence de presse des Leakey à propos d'une zingentrope, qui a été peut-être la première conférence de presse à propos d'un fossile, eh bien, ça a été sa médiatisation intense au niveau mondial, hein, parce que les Français, les Américains, les Anglais étaient impliqués là-dedans.
France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois.
Et on parle paléontologie aujourd'hui avec deux éminentes représentantes de cette science, Raymond Bonnefy qui est biologiste, géologue de formation et palynologue, donc qui étudie les pollens, et Claudine Cohen qui est philosophe et historienne des sciences et qui connaît bien aussi la question de la représentation de la préhistoire dans nos imaginaires. Et justement, en termes de représentation, la découverte de Lucie a fait beaucoup, notamment sur cette question du berceau de l'humanité, vous l'avez dit, qui est situé en Afrique à cette époque-là. Et ça aussi, c'est une idée qui a tendance à évoluer, sur laquelle, en tout cas, on continue de discuter, Claudine Cohen, cette question de l'origine.
Alors, bien sûr que l'origine fascine. Hein. L'origine, c'est le lieu de tous les rêves, de tous les mythes. Et les paléontologues cherchent toujours quelque chose d'originel, même s'ils savent qu'on ne trouve pas l'origine, hein, c'est un peu mythique. Mais cette histoire d'Afrique, c'est une vieille histoire. Déjà, Darwin l'avait dit. Hein, en comparant les singes qu'on trouve sur les autres continents et les singes d'Afrique, il avait dit que l'Afrique était très certainement le berceau de l'humanité. Mais dans les années qui ont suivi, dans les décennies qui ont suivi, et jusque dans les années 1930, on envoie des expéditions au fin fond de l'Asie pour trouver l'homme fossile.
Oui, hein, Théliard de Chardin.
Oui, oui, et puis aussi les Américains, Simpson, Osborne, pardon, envoient une expédition au fin fond du désert du Gobi pour trouver l'origine de l'homme. Alors c'était un peu en rapport aussi avec la Bible, hein, c'est l'Asie qui est le berceau de l'humanité. Et là, au manque de bol, ils trouvent des œufs de dinosaures, mais ils trouvent pas du tout de fossiles humains. Et peu après, on se met à fouiller en Afrique, et c'est là qu'on va trouver. Donc c'est un peu la vérification de l'hypothèse darwinienne que cette découverte.
Raymond Bonnefy, vous, c'est votre terrain, l'Afrique, cette Éthiopie dans laquelle vous avez passé tant d'années. Cette idée de fouler et de chercher le berceau de l'humanité, c'est quelque chose qui vous a animé en tant que chercheuse?
Je ne sais pas si vraiment chercher le berceau de l'humanité. Je pense, comme vous le dites, l'idée à cette époque est justement de replacer les ossements dans leur contexte et de comprendre s'il y a eu la théorie darwinienne, s'il y a eu évolution, quels ont été les facteurs qui président à cette évolution. Est-ce qu'il y a eu un changement de milieu, par exemple, de passage de la forêt à la savane? Et c'est là que je suis intervenue. Parce que j'ai dit, mais attendez, moi, s'il y a la forêt aussi, à la savane, avec les pollens, je saurais vous le dire.
Et finalement, alors, forêt ou savane?
Ah non, savane. Savane, plus ou moins boisée, mais savane.
Voilà qui est dit, vous régler un certain nombre de problèmes aujourd'hui à ce micro, Raymond Bonnefy, et je vous en suis
reconnaissant. Mais plus ou moins boisé, plus ou moins boisé. Oui, il y a quand même des variations qui sont pas négligeables.
Il faut bien ça, puisque on a longtemps dit que Lucie était morte d'être tombée d'un arbre. Alors ça aussi, voilà.
Non, je crois que Yves Coppens, je crois, a bien retenu les leçons de ce que vous avez apporté. Je pense qu'en forgeant cette fameuse thèse de l'East Side Story, l'idée que c'est justement à cause du déboisement que la sélection a fait que les hommes se sont trouvés adaptés à ce milieu de savane par la bipédie, par le fait de voir plus loin, etc. Donc il me semble que votre travail a considérablement nourri ces hypothèses.
Oui, alors mon travail a consisté à montrer qu'il y a eu un grand changement dans l'Afrique de l'Est, dans les végétations et dans les climats de l'Afrique de l'Est. La première fois, c'était autour de 2,6 millions d'années, c'est quelque chose qui a eu un impact très fort. Mais depuis, on s'aperçoit que finalement, l'évolution du climat et de la végétation a été quelque chose de dynamique, de cyclique et de constant. Il reste néanmoins que cette période de 2,6 millions, qui pendant longtemps à dater les premiers outils taillés, mais maintenant on vient d'en découvrir de plus anciens, marquer une évolution dans les animaux, dans aussi les hominidés, parce qu'il y a eu effectivement un grand épisode de sécheresse à cette époque.
Et probablement l'émergence du genre Homo.
Oui, ça reste toujours l'apparition du genre Homo, sauf si la mâchoire de 2,9 millions d'Éthiopie est attribué au genre Homo.
C'est une question importante parce que, comme je le disais, la paléontologie est une science qui a beaucoup évolué dans sa connaissance ces dernières années, au gré des découvertes, mais aussi des progrès technologiques. Et probablement, ce que j'ai pu apprendre moi dans les années 90 au collège, une espèce de frise chronologique qui montre l'enchaînement des espèces, en quelque sorte, en tout cas des différents, n'est plus tout à fait l'image qu'on a aujourd'hui. Et on a plutôt qu'une origine unique, ce démon des origines, aurait dit Marc Bloch, on a l'impression qu'il y a plutôt des origines, c'est-à-dire un certain nombre de foyers différents. Est-ce que je me trompe, Raymond Bonnefy? Vous faites la grimace.
Alors, c'est difficile. Origine est un mot plutôt philosophique. Disons, la paléontologie, elle a évolué parce qu'elle a été l'objet d'un travail d'équipe et qu'elle a associé différents spécialistes. Et ce qui est remarquable dans les expéditions que je décris dans mon livre, c'est qu'on travaillait ensemble. On travaillait sur le terrain, on échangeait en permanence ensemble. Et ce partage des connaissances, c'est cela qui fait avancer.
Au-delà des rivalités, parce qu'on a toujours, on peut avoir
l'image. Oui, les rivalités interviennent quand il y a une découverte qui prend le dessus, le devant de la scène. Voilà, ça, c'est humain. Je pense que c'est valable dans toutes les communautés. Et alors, l'origine, il se trouve que après ces expéditions et après la découverte de Lucie, il y a eu beaucoup d'expéditions en Éthiopie, dans cette vallée qui est extrêmement riche, la vallée de l'Awash. Donc c'est en dehors de l'expédition de l'Omo, hein, il faut pas, les deux régions sont tout à fait distinctes en Éthiopie. Il y a une carte dans mon livre qui montre bien cela, parce que l'Éthiopie est très vaste. Et donc, il y a eu énormément de restes trouvés, et ces restes ne s'enchaînent pas sur une succession linéaire. Et voilà, il y a deux grands groupes, les Australopithèques et les Hominidés, et puis il y a beaucoup de types différents. On a des successions dans le temps, c'est une sorte d'arbre buissonnant.
L'arbre buissonnant, c'est une belle image, Claudine Cohen. Vous êtes beaucoup intéressée à cette question des origines.
Bien sûr. Bon, on ne peut pas dire que l'origine soit multiple. On n'est plus dans le polygénisme de l'espèce ou de la famille humaine. On peut dire simplement qu'il y a une diversité très tôt, à partir d'ancêtres qu'on ne connaît pas et que probablement on ne connaîtra jamais. C'est très difficile de tomber sur la figure même de l'ancêtre dans les fouilles. Hein. Mais à partir de là, il y a, comme disait très bien Madame Bonnefille, il y a un buissonnement, et on voit très bien que très tôt dans l'histoire de cette famille, il y a plusieurs espèces contemporaines, voire plusieurs genres contemporains. Hein. Le fait que nous soyons la seule espèce du genre Homo aujourd'hui sur Terre est quelque chose d'assez nouveau, d'assez exceptionnel. Pendant toute l'histoire de la famille humaine, eh bien, il y a eu plusieurs espèces contemporaines, alors dans des lieux parfois différents, ou parfois même dans des niches différentes, dans un périmètre pas très vaste. Et ça met l'accent sur cet aspect arborescent, buissonnant, qui au fond remonte aussi à Darwin, parce que c'est Darwin qui a montré que l'évolution n'était pas un fil linéaire qui menait directement jusqu'au but ou jusqu'à nous, hein, mais au contraire que l'évolution se passait dans ce schéma très arborescent, voire buissonnant, comme disait Stephen Jay Gould.
C'est vrai que c'est quelque chose en ce moment qui me choque tout autant que la position prise par beaucoup de savants au 19e et au début du 20e siècle. C'est-à-dire que il ne faut pas continuer à vouloir hiérarchiser les hommes, les sociétés. Les Néandertaliens sont différents, point. Il n'est pas nécessaire de dire qu'ils sont inférieurs ou supérieurs. Et c'est tout aussi ridicule de dire qu'ils sont supérieurs à nous. Pourquoi on dit ça en ce moment? On dit ça en ce moment, je pense, enfin certains disent ça, parce qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être de ce qu'est devenu l'Homo sapiens. Beaucoup de gens voient dans l'évolution de l'homme moderne, en tout cas actuellement, ils voient un être qui est un être destructeur. C'est-à-dire que non seulement il détruit la planète, il s'entretue, l'espèce s'entretue, hein. Il y a des guerres, il y a toujours de la violence et des guerres. Et donc, ils n'aiment pas ce que l'Homo sapiens est devenu. Du coup, ils ont une espèce d'image tout aussi faussée que celle des savants du 19e siècle, en pensant que Néandertal était écologiste. Ça n'a pas de sens, je veux dire, d'employer ce terme, puisqu'il était dans la nature, il vivait de la nature dans la nature, et c'était intrinsèque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, de sa part, une réflexion de dire « Oh là là, il faut que je préserve la nature », pas du tout.
Alors là, on a fait un petit bond dans le temps, hein, vous l'aurez noté avec cette archive de Marlène Patou-Matisse qui était dans Concordance des temps en 2018, mais une archive qui me semblait néanmoins intéressante pour aborder aussi cette question qui est celle finalement de la représentation qu'on a de ces périodes très très lointaines. On a déjà parlé des origines, j'espère qu'on va parler aussi un petit peu de la question du genre, la représentation de la femme à cette époque-là avec vous, Claudine Cohen. Mais là, ce que nous dit Marlène Patou-Matisse, c'est voilà, quand on pense à Néandertal, on veut le mettre au-dessus, en dessous de Sapiens, notamment sur cette question de la nature, parce qu'aujourd'hui on a des préoccupations écologiques, et ça montre bien que voilà, on regarde, je le disais tout à l'heure en paraphrasant l'historien italien Benedetto Croce qui disait il n'y a d'histoire que contemporaine, qu'il n'y a de préhistoire que contemporaine. C'est assez vrai, Claudine Cohen.
Oui, je pense que cette vision hiérarchique, elle est liée à l'idée d'un fil, d'une évolution linéaire qui va jusqu'à nous nécessairement. Donc effectivement, il faut se départir de cette représentation hiérarchique de l'évolution humaine.
Vous partagez évidemment cette approche.
Oui, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai lu le livre de Sylvana Condemi sur Néandertal qui permet justement de bien le replacer. Ça m'a beaucoup intéressé, sa vision qui fait qui nous le replace comme un homme qui serait un peu un cousin, mon frère.
Oui, parce que ce qu'ont montré les recherches, notamment en paléogénétique, c'est que nous avons un petit bout de patrimoine génétique commun, nous, je dis, oui. C'est sapiens avec Néandertal. Oui. S'il faut parler de culture, évidemment, Claudine Cohen, et j'en viens à ce qui vous a occupé, notamment dans cet ouvrage Variations sur l'histoire de l'humanité, cet ouvrage collectif où vous avez signé un article sur aux origines du genre, c'est que, par exemple, quand on pense à un cas comme la question de la taille des femmes aujourd'hui, plus petite que celle des hommes, on peut avoir une approche évolutionniste, on peut avoir une approche plus culturaliste, par exemple, la fameuse théorie du steak, c'est parce que les femmes auraient été privées de l'accès à un certain type de nourriture qu'elles seraient aujourd'hui plus petites. Donc on voit qu'il y a aussi cet enjeu.
Oui, alors là vous entrez sur des questions qui restent quand même assez polémiques et assez discutées. Hein. C'est la fameuse thèse de Prissy Touraill hein, qui a défendu contre toute attente et contre les idées reçues hein, que ce dimorphisme sexuel, qui est souvent donné comme un donné de la nature, eh bien, ça peut être aussi envisagé comme un résultat de la sélection sexuelle. Et ça reprend un peu ce que racontait Darwin sur le fait que la domination masculine est le résultat de la sélection sexuelle. C'est pas un donné de la nature, mais c'est quelque chose qui se produit à travers des sélections répétées. Qui font que les hommes se sont battus entre eux pour posséder les femelles. Donc c'est les plus courageux, les plus intelligents qui ont pu avoir accès à la reproduction, et que d'autre part les femmes ont elles choisi des hommes qui étaient susceptibles de les protéger, de les nourrir, de protéger leurs enfants, etc. Ce qui a conduit à cette différence. Et c'est alors je cite, j'étudie ce texte de Darwin qui est tout à fait passionnant, hein, qui montre qu'au fond la différence des sexes ce n'est pas un donné de la nature. Il dit que c'est inhérent, mais ce n'est pas naturel. Et c'est donc au terme d'un processus qui est d'ailleurs lui-même réversible. Hein, il explique bien que par l'éducation, on pourrait rendre aux femmes toutes ces qualités de courage, d'intelligence, etc., qu'elles ont en quelque sorte un peu mises de côté au cours de cette histoire évolutive. Alors, Darwin est assez machiste d'une certaine façon, et il répercute un petit peu... Oui, voilà, il répercute un peu l'idéologie victorienne lorsqu'il dit que les qualités des femmes, c'est d'être douce, c'est d'être maternelle, etc. Et alors que les hommes, eux, sont courageux, il dit que c'est les seuls à pouvoir être géniaux. Hein. Les femmes n'ont pas de génie. Bien. Et donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'idée qui me semble très forte et intéressante que il y a une construction des relations de genre et qui se solde, qui s'est toujours soldée par une domination masculine. Alors, peut-être est-ce réversible, et ça aussi c'est chez Darwin, mais c'est aussi chez d'autres personnes plus engagées dans une lutte féministe comme Simone de Beauvoir. Voilà.
Alors, on sort un petit peu de votre spécialité là, Raymond Bonnefille, mais vous avez peut-être quelque chose à dire sur
ce qui vient d'être... Ah ben, je me demande ce que diraient les généticiens par rapport au rôle du chromosome Y. Et puis, dans les hominidés, la différence de taille entre les sexes est plus grande que dans notre espèce. Elle va en régressant au cours de l'évolution. Bon, alors, il y a des discussions.
Il y a des discussions.
C'est un petit peu discuté.
Il y a des discussions... Déjà chez les australopithèques, parce que des fois on dit que ce sont deux espèces et pas deux sexes différents, hein, les théories de Sartre par exemple en Afrique du Sud. Chez les Homo erectus, on n'est pas sûr qu'il y ait un très grand dimorphisme. Chez les néandertaliens, le dimorphisme est assez limité, les deux sexes sont extrêmement robustes. Et puis chez les sapiens, il est aussi relativement faible.
Relativement faible, c'est ce que vous dites évidemment Raymond Bonnefille à l'instant, en indiquant que finalement Madame Australopithèque était peut-être beaucoup plus différente de Monsieur Australopithèque que nous ne sommes différents aujourd'hui dans le studio. Je parle évidemment de morphologie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette grande table. Je rappelle vos ouvrages, Raymond Bonnefille, Sur les pas de Lucie, Expédition en Éthiopie. C'est passionnant. Vous revenez sur cette découverte à laquelle vous avez participé de Lucie, que tout le monde connaît. C'est préfacé par Yves Coppens et c'est publié chez Odile Jacob. De votre côté, Claudine Cohen, vous avez participé à cet ouvrage Variations sur l'histoire de l'humanité de nos éditions La Ville Brûle, et c'est également préfacé par Yves Coppens. Vous avez aussi participé à cette anthologie de la préhistoire littéraire, des textes littéraires qui nous parlent de notre passé, de notre lointain passé. Merci beaucoup d'être passé par la grande table. Merci aussi à toute l'équipe, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Maya Neskovitch et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation, c'était Marie Placé. À la prise de son, Dali Yar.